et nous sommes heureux d'avoir encore l'occasion d'étudier ensemble une portion de l'Écriture sainte. Et ce matin, 13 août, c'est toujours notre épître aux Romains traitant de la puissance de Dieu, et nous sommes arrivés au chapitre 14e que nous pouvons intituler La tolérance qui doit régner entre les chrétiens. Nous voulons prier. Ô notre Dieu, en ouvrant ta parole, nous voudrions que tu disposes nos cœurs comme tu l'as fait autrefois pour Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire et qui se trouvait à Philippe, au bord du fleuve où l'apôtre Paul exposait l'Évangile. Tu lui ouvris le cœur pour qu'elle soit attentive aux paroles de ton serviteur. Et ce fut si merveilleux que son cœur ayant été ouvert, elle ouvrit aussi sa maison pour l'apôtre, et c'est ainsi que commença cette première église dans la ville de Philippe. Seigneur Jésus, ouvre nos cœurs, tous nos cœurs, qu'aucun ne reste fermé, et que réellement, en ce jour, il y ait de la joie dans le ciel pour les dernières âmes qui, ici, auront cédé à ton amour. Amen. Eh bien, j'espère que vous avez été réconfortés par la lecture de ce chapitre que je trouve tellement remarquable et utile pour nous donner ce que j'appellerais l'équilibre chrétien. Il y a tant de gens qui sont déséquilibrés et qui pourtant se réclament de Jésus. Je me souviens toujours de ce moment où, visitant un asile d'aliénés, je me promenais avec l'un d'entre eux dans le jardin. Il était assez calme et il me dit tout à coup, c'était un ancien camarade d'école quand j'étais encore à l'école primaire en Suisse, « Gaston, dis-moi, qu'est-ce que c'est l'équilibre ?» J'avais 19 ans quand cette question m'était posée. Qu'est-ce que c'est l'équilibre dans le jardin d'un asile? Qu'est-ce que c'est l'équilibre? Et alors, c'est pas moi qui ai répondu, mais j'ai entendu la réponse qui sortait de mes lèvres: c'est le Christ. Et pour moi, c'était une révélation. Et oui, c'est Christ, le Christ qui est l'équilibre. Et c'est de le connaître qui nous rendra des gens équilibrés. Ni trop, ni trop peu. L'équilibre. Regardez la vie du Christ. Ne soyez pas seulement de ceux qui font une lecture contemplative de la parole, mais dans ces moments de silence, que cette parole vous amène à sa personne et que vous puissiez le contempler lui-même, allant de lieu en lieu, faisant du bien, écoutant les questions qu'on lui posait, regardant ceux à qui il allait répondre et répondant toujours avec cette sagesse pour faire du bien à l'âme qui l'a questionné, qui le questionnait. Puis aussi, il est dit dans les prophètes que le Seigneur, lorsqu'il était sur la terre, il voyait bien des choses et il ne faisait pas attention. Sans ça, il aurait été constamment arrêté. Les oreilles ouvertes, il n'entendait pas. Il y a des choses qu'il n'entendait pas. On disait des choses. Oui, il les entendait, mais il n'y faisait pas attention. Il passait. Tandis que nous, nous nous arrêtons tout de suite. Nous sommes vexés, nous nous fâchons. Que le Seigneur nous donne d'apprendre de lui. Et mieux encore, comme on l'a considéré dans une fin de semaine biblique, pas seulement apprendre de lui, mais l'apprendre lui-même. Parce que lui, on peut apprendre sa personne. On n'a pas seulement des leçons qu'on peut recevoir de lui, mais lui-même, c'est toute une leçon. Car il était sa doctrine, et sa doctrine à lui, c'était sa vie. L'équilibre en toute chose, le Christ. Dans la première partie de ce chapitre, nous avons, du verset 1 au verset 13, le support envers les faibles en la foi. Dans la deuxième partie, du verset 14 à la fin, verset 23, nous avons cette exhortation à supporter les faibles en usant de notre liberté qui doit toujours être conduite par la charité. Donc cette dernière partie, c'est l'usage de notre liberté, toujours dirigée par l'amour. Alors je me demande si vous avez bien compris ce qu'était un fort dans la foi et ce qu'était un faible dans la foi. C'est le chapitre entier qui va nous montrer clairement ce que l'apôtre appelle faible et fort dans la foi. Et j'espère bien que vous n'avez pas pensé que le fort dans la foi, c'était uniquement celui qui avait une très grande foi, et puis que le faible, c'était celui qui avait une petite foi. Car ce qui nous est demandé aux uns aux autres, c'est d'avoir une foi qui augmente. Alors il n'est pas question ici simplement d'une petite foi ou d'une grande foi. Qu'est-ce que l'apôtre entend ? Parce que c'est le contexte qui nous donne la définition de ces paroles. Qu'est-ce que l'apôtre entend par un fort dans la foi et un faible dans la foi ? L'église de Rome, à laquelle il écrivait, était composée en majeure partie, donc, de païens convertis, qui, forts de leur acceptation, alors qu'ils ont reçu la foi uniquement en Jésus-Christ, ils étaient disposés à juger et à mésestimer leurs frères venus du judaïsme et qui, eux, avaient conservé des scrupules ascétiques relatifs aux prescriptions de la loi. Il y avait, par exemple, des jours de fête qui avaient été institués par la loi de Moïse. Et ces jours de fête, ils leur paraissaient sacrés. Puis il y avait cet usage de viande et du vin qui n'était pourtant pas défendu par la loi, mais qui leur semblait dangereux pour la vie spirituelle, surtout peut-être s'il s'agissait de repas pris en commun. De là, ce que Paul appelle leur faiblesse dans la foi. n'ayant pas compris tout le conseil de Dieu, ni la plénitude de la grâce, ces hommes se privaient de la liberté chrétienne et leur foi, faible relativement à son objet, le restait aussi dans son principe, c'est-à-dire en eux-mêmes. Ils étaient sincères dans leur ignorance. Alors, Paul exhorte chacun au support. Lui qui est si inflexible à l'égard de ceux qui auraient voulu établir leur propre justice par les œuvres de loi et anéantir la grâce de Dieu, vous voyez qu'ici, il est plein de tendresse, plein de compréhension pour ces gens qui ne veulent pas établir leur propre justice en observant des règles de loi, mais qui ne sont pas encore sortis entièrement de ce judaïsme. Et quand Paul voit que ce sont que des choses extérieures et qui ne touchent pas au fond la question du salut, eh bien, il est plein de compréhension et il voudrait que ceux qui sont convertis du paganisme et qui n'ont pas tout cet héritage de tradition, eh bien, aient de la compréhension et se disent qu'on ne se débarrasse pas comme cela de vieilles habitudes et qu'il faut du temps et surtout que le Seigneur opère et donne à chacun une conviction, que ce soit à l'égard de certains aliments ou à l'égard de certaines fêtes. Ce qui compte, c'est l'intention. Il faut plaire au Seigneur, parce que nul de nous ne vit pour lui-même, soit que nous mourions, soit que nous vivions, nous sommes au Seigneur. Et ne jugeons pas les autres, ne les méprisons pas non plus, et souvenons-nous que chacun de nous, nous devrons comparaître devant le tribunal du Christ, qui manifestera les mobiles et qui nous ont fait agir dans telle ou telle circonstance. Alors, prenons maintenant la lecture. Faites accueil ou recevez-vous. Quant à celui qui est faible dans la foi, recevez-le. Celui qui est faible dans la foi, c'est pas quelqu'un qui croit seulement en partie, c'est un sauvé. Comprenez-vous? C'est pas de la quantité de sa foi qu'il est question, mais c'est que il n'a pas encore saisi tout ce que le Seigneur peut lui apporter. Alors, nous devons l'accueillir et ne pas discuter sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Qu'est-ce qui a raison? Est-ce que ça touche au salut, ça? Reprenez toute l'écriture. Quand tu manges, dit le Seigneur par le prophète Zacharie, c'est pour qui que tu manges? C'est pour moi? C'est pour toi-même. Et si tu jeûnes, c'est pour toi aussi. Si le jeûne te profite, bien jeûne. Et puis, si de manger ça te profite, eh bien mange. Mais si tu vois que tu grossis trop, eh bien jeûne. N'est-ce pas? Mais ne discutons pas de cela. Ayons assez de bon sens et n'imposons pas nos idées aux autres dans ce domaine. Chacun doit être son juge. Maintenant, si le régime végétarien vous convient et que vous vous sentez bien à l'aise quand vous avez mangé vos légumes, continuez. Mais n'exagérez pas et n'allez pas dire à tout le monde qu'ils ne doivent manger que des légumes, parce qu'ils n'ont pas la même constitution que vous, et puis surtout parce qu'ils n'accomplissent peut-être pas le même travail que vous, et qu'ils ont bien, ils ont eux besoin d'un peu de viande, davantage de protéines. Et puis si vous, vous êtes bien parce que vous mangez de la viande, n'obligez pas l'autre à en manger aussi. Respectez la liberté de chacun. Il n'est pas question du salut ici. Mais il est peut-être question de votre sanctification personnelle. Ça, c'est différent. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Ayez affaire avec Dieu quant à votre régime. Puis ne regardez pas aux autres. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Vous voyez, nous sommes tous les serviteurs du Seigneur. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Alors n'entrez pas dans la relation d'une âme avec son maître. C'est cela qui est détestable. Ce sont ces chrétiens qui veulent toujours être les intermédiaires entre le Seigneur et nous. Et chez nos amis évangéliques, c'est quelque chose qui est tout à fait contradictoire. Ils insistent tellement qu'il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes. Et il y a un tas de ces personnes qui veulent se mettre entre nous et le Seigneur pour nous dire ce que nous avons à manger, ce que nous avons à boire, ce que nous ne devons pas manger et ce que nous devons boire. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Seigneur Jésus qui nous donne la vraie liberté et le vrai équilibre. Il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Croyons que le Seigneur est avec tous les siens et que lui a le pouvoir de nous affermir. Tel fait une distinction entre les jours. Tel autre les estime tous égaux. Il faudrait lire les passages correspondants dans les Galates. Mais qu'est-ce qui convient? Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Vous voyez, quand je suis en Israël, je fais le sabbat, automatiquement, parce que le sabbat, en Israël, eh bien, c'est ce que vous pourriez appeler le dimanche, ici. Alors, les cultes ont lieu ce jour-là, et les chrétiens se réunissent aussi, la plupart, ce jour-là. Il y en a qui se réunissent encore le dimanche, qui veulent aussi observer le dimanche. Moi, ça m'aide parfaitement. Égal, je me sens aussi bien à l'aise de prendre la scène le sabbat, le samedi, que le dimanche. Et puis, s'il y en a de mes amis qui travaillent le dimanche, eh bien, ça ne me gêne pas non plus et je ne les juge pas. De sorte que nous sommes libérés de tout cela. Car ce qui compte, c'est d'être dans le Seigneur. Mais il faut avoir une pleine conviction. Verset 6. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Maintenant, je vois quelqu'un qui dit, bien, moi, c'est le dimanche parce que c'est le premier jour de la semaine que les disciples se réunissaient. Alors, très bien, réunissez-vous le dimanche. Et puis, c'est quand même ce premier jour de la semaine qu'on peut le mieux louer et bénir le Seigneur parce que c'est le jour de la résurrection. Alors, employez le jour de la résurrection pour louer et bénir le Seigneur. Mais bénir et louer le Seigneur, c'est seulement le jour de la résurrection qu'on devrait le faire? C'est tous les jours. Alors, dans un sens, que tous vos jours soient un dimanche. Ça devrait être un dimanche tous les jours pour nous, si c'est la louange du Seigneur. C'est tous les jours que ça devrait être dimanche. Puis maintenant, quelqu'un me dit, mais moi, je ne peux pas célébrer le Seigneur le samedi parce que c'était le jour où le Seigneur était dans le tombeau. Il était dans le silence. Eh bien, soyez dans le silence le sabbat. et vous en bénéficierez beaucoup. Mais agissez selon vos convictions. Si ça vous convient d'être dans le silence le sabbat, parce que vous pensez au Christ et à sa mort, dans le tombeau, eh bien, c'est un jour de silence, le sabbat. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Voilà pourquoi nous rendons grâce à Dieu pour la nourriture. Car il rend grâce à Dieu, celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Si vous jeûnez, ben vous rendez grâce à Dieu. Parce que le jeûne vous profite. Et là, je pourrais vous raconter bien des choses qui me sont arrivées par le moyen du jeûne, mais du jeûne qui ne m'est pas imposé, mais que je m'impose parce que cela peut me servir à certains moments et j'en ai une bénédiction, mais je n'ai pas de mérite quand je veux. Pas du tout. C'est un moyen que Dieu met à ma disposition pour que je puisse recevoir certaines grâces et certaines bénédictions. Mais je n'ai pas à juger celui qui mange. Qu'est-ce que vous voulez? On est en serviteur de Dieu un jour, c'était en France. Et on m'a demandé pourquoi je ne mangeais pas avant les conférences. Bien, parce que on nous est mangé tellement tard, juste avant la réunion, la conférence, on sortait de table 5 minutes avant, on nous transportait à toute allure à la salle, et puis il fallait commencer tout de suite. Alors que la digestion n'était pas du tout faite, et puis qu'on nous avait presque forcé de manger 3 sortes de viande. Ben, ça ne correspondait pas à ma nature, moi. Ça n'allait pas. Et comme j'ai cette faiblesse de transpirer de la tête, eh bien, je transpirais encore davantage quand j'avais mangé. Et alors, j'ai décidé, quand j'étais dans ces pays-là, où j'ai mangé trop tard, j'ai décidé pour mon bien de ne plus manger. Et c'était beaucoup plus simple. Et puis je ne froissais personne, parce que quand vous êtes à table et que la maîtresse de maison a préparé des choses bonnes, parce qu'elle veut vous honorer, puis que vous lui dites « Merci beaucoup, non, vous avez l'air de ne pas aimer ce qu'elle a fait, et on est malheureux. » Alors, quand on dit d'avance « Ne m'invitez pas pour le repas du soir, parce que je ne mange pas. » Et puis ça me donne aussi un petit moment de recueillement. Parce que, comme je l'ai dit quelquefois, la plupart du temps, les gens ne pensent pas qu'avant d'être en face d'une foule, il faut que je sois en face du Seigneur. Et alors, comme je n'ai pas ma chambre d'hôtel, comme je n'ai pas une chambre chez les personnes où je mange ce soir-là, quel est le lieu où je puis me retirer pour avoir un petit moment de communion avec le Seigneur? C'est le lieu du trône. C'est absolument certain, mais vous risquez de bloquer tout, parce que si vous y restez trop longtemps, il y en a d'autres qui doivent aller à la réunion puis qui veulent passer par là aussi. Alors, de toute façon, le temps que vous y passerez sera limité, mais bien souvent, on doit prier dans les lieux secrets. C'est vrai. J'ai eu de ces combats dans les lieux secrets. Mais je l'ai dit une fois, parce que je fais du face-à-face, je l'ai dit une fois devant 1500 personnes. C'était à la convention de Morges, et depuis ça a changé. Les gens me disaient, est-ce que vous voulez une chambre, monsieur? Oui, mais vous voyez, ça, ce sont des choses qui nous servent. Et alors un autre m'a dit, alors lui, un serviteur, en tout cas moi, je ne pourrais pas être comme toi. Moi, il faut que j'aille bien manger pour que je sois en forme pour ma réunion. Et alors, un autre a dit, mais oui. C'est comme disait l'autre, pour que le tambour résonne, il faut que la peau soit tendue. Voilà. C'est ça. Alors moi, je n'ai pas à le juger. S'il faut qu'il ait la peau tendue pour faire sa réunion, eh bien, ce chapeau soit tendu. Mais vous, pour écouter, pour que vous soyez bien disposés à écouter, il faut que vous ayez fait un grand gueuleton. Et je vois comme vous écoutez. On se pince pour se réveiller. Puis le prédicateur, tout d'un coup, il dit, il prêche sur Jonas, puis il dit, et le capitaine arrive à dire, « Tout le monde est là, dormeur oh !» Il a cru qu'on l'interpellait. En pleine réunion, tout le monde se retourne. Sa Bible agite en l'air. Mais ce n'était pas de lui qu'il était question, c'était de Jonas. Au fond de sa cave. Oh, riez, ça me fait du bien. Alors, ne nous jugeons pas. Le Seigneur veut que vous soyez vous-même. Alors, vous voyez, on mange, ben, c'est pour le Seigneur. Puis si on ne mange pas, c'est aussi pour le Seigneur. Le verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Ça, c'est un verset fantastique. Vous pouvez le souligner, l'encadrer. Et demander au Saint-Esprit qu'il vous le rappelle toujours. On ne vit pas pour nous-mêmes. Puis alors, ce qui est formidable, c'est qu'on ne meurt pas pour nous-mêmes. Vous savez, ça, c'est fantastique. Notre mort, elle doit être à la gloire du Seigneur. Si on meurt, il faut que ça glorifie le Seigneur. Alors faites attention, il y a des morts de chrétiens qui ne glorifient pas du tout le Seigneur. Quand des chrétiens se permettent de transgresser les lois de la route et qu'ils ont un accident dont ils sont entièrement responsables et qu'ils font peut-être aussi des victimes, ce n'est pas à la gloire du Seigneur. Et ils ont été retranchés avant le temps. Alors demandons au Seigneur que nous ayons une mort à sa gloire. Mourir à l'heure du Seigneur. Peu importe comment, peu importe où, c'est comme un Étienne, mais mourir en voyant le ciel ouvert. C'est peut-être dans son lit, mais c'est peut-être aussi d'une mort violente. Notre manière de mourir n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'on meure où Dieu le veut, quand Dieu le veut, et que cette mort parle et soit à sa gloire. Comme notre vie. Et la mort devrait être le sceau que Dieu met sur notre vie. Verset 8. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Est-ce que c'est vrai? Dans la pratique, maintenant, si nous voulons vivre pour le Seigneur, vous croyez que ça sera une vie pénible? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Avec le Seigneur, on a du repos. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Que c'est beau. Alors la mort n'a plus de terreur pour nous, c'est plus le roi des épouvantements. Voyez-vous, moi je me représente ça comme ça. On marche avec le Seigneur, on l'a reçu, il est en nous, il est avec nous. Alors on marche ensemble, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Puis, on s'entretient avec lui dans le chemin, comme Abraham parlait avec le Seigneur. Puis à un moment donné, le Seigneur nous dit, bien, on est près de la maison, passons à l'autre rive. Et c'est pas le Seigneur qui nous attend de l'autre côté du fleuve de la mort. On est ensemble. Puis il nous dit, passons à l'autre rive. Alors, c'est avec lui qu'on passe, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Puis quand on arrive de l'autre côté, les portails éternels s'ouvrent pour laisser entrer le Seigneur est l'âme qui l'a racheté. Donc nous n'avons pas de solitude. Cette solitude aux effroyables hurlements, elle a pris fin depuis que le Seigneur nous a pris. Et nous sommes en lui, dans la vie, nous sommes en lui, dans la mort. Verset 9. Car Christ est mort, et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Toute la vie du Christ, comme sa mort aussi, comme sa résurrection, eh bien tout cela, il l'a vécu pour nous. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Que tu sois converti du paganisme, ou que tu sois converti du judaïsme, essayez de vous comprendre. Celui qui n'a jamais eu les coutumes juives, c'est clair qu'il ne veut pas. Il n'a pas de problème là. Mais celui qui les a eues, eh bien, comprenons qu'il a peut-être un peu de peine à se dégager de certaines choses. Et puisqu'il ne fait pas cela, il ne fait pas cela pour, au fond, son salut. Mais justement parce qu'étant sauvé et croyant que la loi était quand même bonne, il pense que ça peut encore lui être utile et que ça peut l'aider intérieurement. Eh bien, alléluia! Laissons-le, mais ne lui faisons pas la guerre. Toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Christ. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alors, vous avez peut-être été arrêté par ça. Je dis, mais comment ça se fait que on nous a enseigné que quand on croyait au Seigneur Jésus, on était passé de la mort à la vie et on ne venait pas en jugement et qu'il n'y avait plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis ici, il est dit pourtant que nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Christ. Oui, c'est vrai. Mais nous ne serons pas jugés là devant ce tribunal quant à nos âmes, puisque le jugement a été porté sur le Christ. Mais nous serons jugés là quant à nos œuvres, comprenez-le bien. Depuis votre conversion, vous avez une vie, et c'est cette vie de converti qui sera examinée. Ceux qui comparaissent devant ce tribunal du Christ, comme il l'est dit aussi dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 5, ce ne sont pas des perdus, ce sont les sauvés. Le tribunal du Christ, là, il est pour les sauvés. C'est pas le jugement dernier pour les méchants. Nous sommes passés de la mort à la vie et nous ne venons pas en jugement. Quant à nos âmes, nous sommes sauvés. Mais quant à nos œuvres, nous serons examinés. Et le Seigneur manifestera ce que nous avons accompli depuis que nous prétendons être sauvés. Et ce que nous avons vécu pour le Seigneur. C'est pour ça que c'est capital. Vos jours depuis votre conversion. Qu'avez-vous fait de vos jours, de vos journées? Est-ce que vous aurez vécu pour le Seigneur? Alors faites toutes choses de cœur comme pour le Seigneur. Pensez au Seigneur. Demandez au Seigneur qu'il purifie vos motifs. Car un jour, tout sera manifesté. Et les uns recevront un blâme et les autres une récompense. Ça, ce sont des sauvés. Mais tous n'auront pas la même position dans l'éternité bienheureuse. Ceux qui ont aimé le Seigneur et qui ont voulu être fidèles dans les petites choses recevront plus. Ceux qui ont pensé pouvoir conserver leur vie pour eux-mêmes, eh bien, ils recevront moins. Mais tous diront Amen. Il n'y aura pas de jaloux. Parce qu'à ce moment-là, nous penserons comme Dieu pense. Et nous serons tous d'accord avec l'appréciation de Dieu. Vous apprécierez votre vie comme Dieu l'a appréciée. Il y aura un accord total. Et c'est pourquoi tout genou se ploiera devant lui. Mais est-ce que vous aimeriez ployer les genoux devant lui en reconnaissant votre insuffisance, ou bien ployer les genoux devant lui en louant le Seigneur de vous être laissé faire? Parce que ça ne sera que cela. Ceux qui recevront beaucoup, ce n'est pas ceux qui ont fait beaucoup par eux-mêmes, c'est ceux qui se seront laissés faire par le Seigneur. Le Seigneur a pu les employer, il aura pu se servir d'eux. C'est lui qui veut accomplir ses desseins en nous. Ceci dit, alors passons maintenant à la seconde partie qui nous parle de l'usage de la liberté qui doit toujours être fait dans la charité. Verset 13. « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » On est donc toujours entre chrétiens. Et il y a des chrétiens qui viennent d'un certain milieu avec des habitudes bien ancrées, et puis d'autres, eh bien, qui, eux, viennent entièrement du monde et qui ont vraiment saisi la grande victoire du Seigneur. Eh bien, une pierre d'achoppement, ben, vous pouvez tomber sur une pierre. C'est un obstacle sur votre route, et puis tout à coup, vous ne l'avez pas vu, mais ça vous fait tomber. Oui, trébucher. Alors, j'ai peut-être une certaine liberté, moi, mais qui va faire trébucher un autre. Alors, quand je sais que ce frère est faible, et alors j'emploie de nouveau là une image qui peut être connue de tous. Il est permis de manger de tout, il est permis aussi de boire de tout, puisque toute chose qui existe dans le monde a pour auteur le Seigneur. Mais ce qui est condamné ici, c'est l'abus des choses légitimes. Parce que peut-être que vous ne tombez pas dans l'ivrognerie. L'ivrognerie, c'est le péché. Mais quand vous abusez, par exemple, du vin, eh bien vous risquez de pécher. Les péchés des chrétiens, c'est essentiellement l'abus des choses légitimes. Et c'est pourquoi il nous faut faire très attention, il nous faut avoir cet équilibre. Alors j'invite à ma table quelqu'un que je sais avoir été un alcoolique. Moi, j'ai la liberté de boire mon verre de vin, parce que je ne m'enivre jamais. Mais cet homme que j'ai à ma table, c'était un ancien ivrogne. Le Seigneur l'a libéré, c'est vrai. Mais il me voit boire un verre de vin, puis il se dit, ben, donc c'est pas mal de boire un verre de vin. Alors, je lui en offre, et il en prend. Et par ce moyen-là, qu'est-ce que je lui donne? Le goût de ce qu'il possédait avant. Je lui redonne le goût. Mais est-ce que j'ai été en bénédiction pour lui? Il me dira plus tard, bien c'est vous qui m'avez fait retomber. Vous avez été pour moi une pierre d'achoppement. J'ai entendu un homme qui avait été libéré complètement du tabac, de la cigarette, et qui m'a raconté qu'un jour, il a été invité par un théologien qui, lui, avait sa liberté de fumer, et il n'a pas osé le refuser. Et c'est comme ça qu'il a été repris entièrement. Eh bien, est-ce que cette visite au théologien aurait été en bénédiction? On l'a replacé dans son ancien esclavage. C'est pourquoi je dois veiller dans mes relations avec mes frères, de ne pas être pour lui une occasion de chute. Alors j'ai assez de liberté pour me priver de ma liberté. Un homme qui est libre, il est assez libre pour se priver de sa liberté. Et c'est comme ça que je montre que je suis libre. C'est quand je sais me priver de ma liberté par égard pour mes frères. Je sais et je suis persuadé dans le Seigneur, verset 14, que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches pas selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Quand je sais, par exemple, que tel homme adorait un certain plat, je ne vais pas vous dire ce que c'était. Alors, je l'invite. Et puisqu'il adorait cela, je veux lui faire plaisir. Je lui fais ce plat-là. Est-ce que je lui aide? De lui redonner le goût, alors que lui s'est abstenu de cela parce qu'il savait qu'il en mangeait trop et qu'il avait toujours une indigestion après. Parce que vous savez, c'est aussi péché d'avoir une indigestion parce qu'on a trop mangé. C'est beaucoup plus grave que d'avoir bu un verre de vin. Et c'est quand même triste. On a vu quelqu'un entrer parce qu'il avait soif, dans un bistrot, il était loin de sa demeure, et il a pris un verre seulement. Il en est sorti. Il y a des sœurs qui l'ont vu. Elles sont tout de suite allées dire aux anciens, vous savez, on l'a vu sortir de la taverne. Et alors on fait une réunion d'anciens pour juger ce frère. Mais voilà qu'un de ces anciens a été invité par des sœurs très pieuses qui lui ont fait, parce qu'elles aiment tellement ce frère, ce cher frère, qui les édifie tellement, elles lui ont fait un bon gueuleton, parce qu'elles savent aussi ses faiblesses. Isaac aimait le gibier. Il y en a qui ont des faiblesses. Alors on lui fait ce repas. Puis il s'est oublié, c'était tellement bon. Ah mes sœurs, que c'est bon. Puis voilà que vers le soir, avant de partir, il a des malaises. Alors tout de suite, les bonnes sœurs le font s'étendre, lui font des camomilles. Comme il a attrapé la migraine, on lui fait des compresses. On le soigne. Vous trouvez que c'est bien? Il mériterait d'être battu. Vous comprenez ça? Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, j'ai des libertés, mais je ne veux pas en abuser. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas manger et boire. Mais pour certains, hein, ça a l'air d'être manger et boire. Écoutez un peu les conversations des gens. Ils parlent toujours de ce qu'ils ont mangé, de ce qu'ils ont bu. Il semble que tout leur intérêt, c'est pour le manger et pour le boire. Alors on se demande s'ils n'ont pas encore leur ventre pour Dieu. Cimetière à poulet. Le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice, paix et joie par le Saint-Esprit. C'est cela qui compte. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Oui. Et une femme, maîtresse de maison, chrétienne, bien je suis sûr qu'elle fera pour son mari les choses qui conviendront à sa santé physique et à sa santé spirituelle. Parce que la nourriture
a certainement une influence aussi sur notre vie spirituelle. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et quand vous savez que, bon, vous avez beaucoup de tempérament, bien qu'est-ce que vous prenez? Beaucoup d'épices. Ça vous aidera de manger épicé? Je ne sais pas où faire un jeu de mots. Le royaume de Dieu, c'est pas ça. C'est pas manger épicé. Ils comprennent vite quand on leur explique longtemps. C'est ça la vie pratique. Parce qu'on est sur la terre. Et Dieu s'occupe aussi de ces choses-là. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Si on commençait de vous faire certains repas, qui nous donne à tous la colique et la diarrhée, par exemple, eh bien, je vous promets qu'on serait ennuyé. Parce qu'il faudrait faire des stations devant les quelques toilettes, et ce ne serait pas édifiant. Tout le monde est pressé, tout le monde voudrait y aller. Et on n'est pas édifié. Pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale, de faiblesse. Vous l'avez compris. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Alors, la conclusion, pour l'effort, qu'est-ce qu'il leur est recommandé? Plutôt vous abstenir de tout que de scandaliser votre frère. Hein? Vous êtes fort. Vous pouvez vous abstenir plutôt que de scandaliser votre frère. Tu as une conviction éclairée? Fais-en pour toi et devant Dieu un usage que tu puisses approuver. Puisque tu as cette conviction, bien. Fais-en un usage que tu puisses, dans ta conscience, approuver. Mais, pour les faibles, si tu es dans le doute, abstiens-toi. Car tout ce qui n'est pas fondé sur la foi est mal. Et pour moi, c'est une révélation. Ce verset, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Quand je n'ai pas la conviction, je m'abstiens. Si j'ai un doute, je m'abstiens. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que c'est le chapitre qui vous donnera de l'équilibre et qui vous permettra de devenir un chrétien avec qui on aime vivre. Alors, peut-être que nous pourrions avoir un moment de prière. Vous voyez que ce chapitre, vraiment, c'est la mise en pratique de Romains 8. Quand l'Esprit nous guide, il nous fait tenir compte du bien de nos frères. La règle concernant la volonté de Dieu, tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu est glorifié dans ce que je fais là? La règle, tout pour le bien de mon prochain. Dieu veut le salut de mon prochain. Je peux être une occasion de chute pour lui, une pierre d'achoppement. Puis qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Ma sanctification. Est-ce que ce que je mange, ce que je bois, aide à ma sanctification? Si au contraire ça me provoque des luttes, je m'en applique. En toute chose, je ne suis plus guidé par des lois de tu dois, tu ne dois pas, mais je sais intérieurement ce qui est bon pour moi et ce qui est mauvais pour moi. Et alors je m'abstiens de tout ce qui contribue pas à me rapprocher du Seigneur. Si certaines choses me rapprochent du Seigneur, c'est bien. J'ai dans mon cœur et dans ma conscience le feu vert. Mais si je sais que ça m'éloigne du Seigneur, c'est certainement le feu rouge. On peut le passer. Mais alors ne vous plaignez pas de l'accident. Ne vous étonnez pas de la chute. C'est absolument clair. Vous êtes vous-même responsable de vos chutes. Et le Seigneur fait tout pour que vous soyez gardés de toute chute. Et que vous parveniez devant son trône de gloire, heureux et béni, entendant le Seigneur vous dire, viens bon et fidèle serviteur, viens bonne et fidèle servante, tu as été fidèle dans ce qui est peu, moi je t'ai établi sur beaucoup. Sentez-vous libre de prier.